From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 183rd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session.
La musique de cette session est interprétée par un chœur mixte d'étudiants de l'Université Brigham Young.
This broadcast is furnished as
cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.
President Henry B. Eyring, first counselor.
Henry B. Eyring, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session.
Brothers and sisters, we welcome.
Mes frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la deuxième session de la 183e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Thomas S. Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous saluons toutes les personnes qui sont ici présentes ou qui suivent la conférence au moyen de la télévision, de la radio ou de l'Internet, et à celles qui sont réunies dans les centres de pieux dans diverses parties du monde où elle est diffusée par satellite. Nous saluons la présence des autorités générales et officiers généraux qui assistent à cette conférence. La musique de cette session sera interprétée par un chœur d'étudiants de l'Université Brigham Young sous la direction de Ronald Staley et Rosalind Hall avec Bonnie Goodliffe à l'orgue. Le chœur ouvrira la réunion en chantant « Ô Jésus, quand je pense à toi ». Ensuite, Russell T. Osgetorp, président général de l'école du dimanche, fera la prière d'ouverture, après quoi le chœur chantera « La prière est comme un phare ».
Thank you. Notre très cher Père Céleste, nous nous rassemblons en tant que des saints du monde entier pour cette conférence générale et pour te remercier de toutes les bénédictions que nous recevons de ta main. Nous te remercions pour tout ce que tu nous as donné, toi et ton Fils, et nous te prions afin que nous puissions être bénis par toi pendant cette session et pendant chaque jour de notre vie. Nous sommes reconnaissants du rétablissement. Nous te remercions pour les clés de la prêtrise qui ont été rétablies sur la terre de nos jours, à notre époque. D'avoir un prophète vivant sur la terre qui puisse exercer ses clés en notre avantage, en particulier les clés de scellement qui permet aux familles de vivre pour toujours ensemble. Nous te prions maintenant pour que ton esprit soit avec ceux qui vont parler, avec nous qui allons écouter, afin que notre désir de te servir puisse progresser, croître, et que nous puissions nous réjouir de cette nouvelle vague de missionnaires qui sont prêts à prêcher l'Évangile dans le monde entier, afin que ton royaume puisse se répandre sur la terre, comme jamais auparavant. Au nom de Jésus-Christ, amen.
President Dieter F. Uchtdorf.
Dieter F. Uchtdorf va maintenant vous présenter le nom des officiers généraux de l'Église et les 70 interrégions pour un vote de soutien. Après quoi, Robert W. Cantwell, directeur général du département d'appurement de l'Église, lira le rapport annuel. Il sera suivi de Brooke P. Hales, secrétaire de la première présidence, qui présentera le rapport statistique de l'Église pour l'année 2012.
It is proposed that we sustain Thomas Spencer Monson.
Il nous est proposé de soutenir Thomas Spencer Monson comme prophète, voyant et révélateur et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Henry Bennion Ehring comme premier conseiller dans la première présidence et Dieter Friedrich Uchtdorf comme deuxième conseiller dans la première présidence. Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir Boyd Kenneth Packer comme président du Collège des 12 apôtres et les membres suivants du dit collège. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson et Neil L. Anderson. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir les conseillers dans la première présidence et les 12 apôtres comme prophètes, voyants et révélateurs. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a, par le même signe. Walter F. Gonzalez a été relevé de son appel de membre de la présidence des collèges des 70. Que ceux d'entre vous qui veulent leur exprimer avec nous le remerciement, le manifeste. Il nous est proposé de soutenir Ulysse Suarez comme membre de la présidence des collèges des 70. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a. Il nous est proposé de relever, à dater du 1er 2013, les 70 d'interrégion suivants.
Sergio M. Anaya, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, M. Anthony Burns, David Caprera, Milton Camargo, Robert E. Chambers, Victor K. Kang Chen, Kuo Jiang Chung, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Edward Duby, Matthew J. Eyring, Sion M. Finne-Anganofo, Alfredo L. Gesatti, James B. Gibson, Giovencio A. Guanzon, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Hernan L. Herrera, Javier Ibanez, Paulo H. Igionose, Douglas W. Jessup, Stephen C. Kerr, Joni L. Koch, Faustino Lopez, Richard K. Melchin, Freebody A. Mensa, Benson E. Misaluca, Abelardo Morales, W. T. David Murray, K. Brett Netres, S. Gifford Nielsen, Satoshi Nishihara, Michael D. Pickert, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Daroja, Manfred Schütze, Terence C. Smith, Ruben L. Espitale, Joshua Subandrio, Frank V. Treithel, Miguel R. Valdez, Arnulfo Valenzuela, Carlos A.C. Villanova, Terence M. Vinson, Luis Weidmann, Richard C. Zambrano,
que ceux qui souhaitent se joindre à nous pour exprimer leur reconnaissance à ses frères pour leur excellent service le manifestent. Il nous est proposé de relever, en leur manifestant nos sincères remerciements, Hélène S. Dalton, Mary N. Cook et Anne M. Dibb, de la présidence générale des jeunes filles. Nous relevons également les membres du bureau général des jeunes filles. Que tous ceux qui veulent se joindre à nous pour exprimer leurs remerciements à ces sœurs pour leur remarquable service et leur dévouement le fassent. Il est proposé de soutenir comme nouveau membre du premier collège des 70 Edward Dubé, S. Gifford Nielsen, Arnulfo Valenzuela. Et comme nouveau membre du deuxième collège des 70, Timothée J. Ditch, Randy D. Funk, Kevin S. Hamilton, Adrian Ochoa, Terence M. Vinson. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Que ceux qui sont opposés le manifestent par le même signe. En raison de son appel comme membre du deuxième collège des 70, nous relevons aussi frère Adrian Ochoa de son appel de deuxième conseiller de la présidence générale des jeunes gens. Que ceux d'entre vous qui veulent exprimer leur remerciement le manifestent. Il nous est proposé de soutenir comme nouveau 70 d'interrégion.
Ruben Acosta. Frederick O. Akinbo, Omar A. Alvarez, Benedito Antunes, Alan C. Batt, Grant C. Bennett, Fernando E. Calderon, Wilson B. Calderon, H. Marcelo Cardus, Yoke Sang Chang, Christopher Charles, Valerie B. Cordon, Paul R. Cowart, M. T. Ben Davis, Massimo De Feo, Marion B. De Antuniano, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Robert R. Drayden, Robert J. Dutfield, Daniel F. Dunnigan, Jeffrey D. Erickson, E. Xavier Espinosa, Meliula M. Fata, Sam M. Galvez, Claude R. Gamiet, Mervyn C. Gide, Zhao R. Kral, David P. Homer, Daniel W. Jones, John A. Coranting, Stephen O. Lang, Axel H. Leimer, Gustavo Lopez, José E. Maravilla, Alfredo Miron, Hugo Montoya, Joaquim J. Morera, Katsuyuki Otahara, José Z. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Gary B. Sabin, Alfredo L. Salas, Netza Hual Coyotl Salinas, Ciro Schmeil, D. Zachary Smith, Michael L. Southward, G. Lawrence Speckman, Vern P. Stanfill, William H. Stoddard, Stephen E. Thompson, George J. Tobias, Aisaki K. Tukuafu, Jacques A. Van Renen, Raul E. Vicencio, Raul S. Villanueva, Ellen R. Walker, Keith P. Walker, Hoi San Leonard Wo. All in favor.
Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a, il nous est proposé de soutenir Bonnie Lee Green Oscarsson comme présidente générale des jeunes filles, avec Carole Louise Follet-McConkie comme première conseillère et Evelyn Neil Foote Marriott comme deuxième conseillère. Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir les autres autorités générales, 70 d'interrégion et président général d'auxiliaire actuel. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Merci, frères et sœurs, de votre vote de soutien, de votre foi et de vos prières en notre faveur. Nous invitons les autorités générales et la présidente générale des jeunes filles qui viennent d'être appelées à venir prendre leur place sur l'estrade.
It's a long walk.
C'est une longue marche.
As announced,
comme annoncé, frère Cantwell va nous lire maintenant le rapport d'appurement. Il sera suivi de frère Hales, qui présentera le rapport statistique. À la première présidence de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, chers frères, comme le prescrit la révélation de la section 120 des Doctrines et Alliances, c'est le conseil d'affectation de la dîme qui autorise les dépenses faites à partir des fonds de l'Église. Ce conseil est composé de la première présidence, du collège des douze apôtres et de l'épiscopat président. Il approuve les budgets des départements, des établissements de l'Église et les montants alloués aux unités ecclésiastiques. Les entités de l'Église dépensent les fonds selon les budgets approuvés et conformément aux règles et modalités de l'Église. Accès a été donné au département d'appurement de l'Église à tous les registres et systèmes nécessaires pour évaluer l'adéquation des contrôles des recettes et des dépenses et la protection des biens de l'Église. Le département d'appurement de l'Église est indépendant de tous les autres départements et établissements de l'Église et le personnel se compose d'experts comptables, de contrôleurs de gestion interne, de vérificateurs de systèmes informatiques et d'autres professionnels certifiés. Suite à nos vérifications, le département d'appurement de l'Église estime que, dans tous leurs aspects significatifs, les dons reçus, les dépenses faites et les ressources de l'Église au cours de l'exercice 2012 ont été enregistrées et administrées conformément aux pratiques comptables appropriées, au budget approuvé et aux règles et modalités de l'Église, respectueusement, département d'appurement des comptes de l'Église, Robert W. Cantwell, directeur général. Pour l'information des membres de l'Église, la première présidence a publié le rapport statistique suivant sur la croissance et la situation de l'Église au 31 décembre 2012. Le nombre total de pieux s'élevait à 3005, avec 347 missions, 591 districts et 29 014 paroisses et branches. Le nombre total des membres de l'Église était de 14 782 473. En 2012, le nombre de nouveaux enfants inscrits dans l'Église était de 122 273 et 272 330 convertis baptisés. Au 31 décembre, il y avait 58 990 missionnaires à plein temps et 22 961 missionnaires des services de l'Église dans le monde. Quatre temples ont été consacrés en 2012. celui de Kansas City au Missouri, de Manaus au Brésil, de Brigham City en Utah et de Calgary en Alberta. Deux temples ont été reconsacrés en 2012, le temple de Buenos Aires en Argentine et le temple de Boise en Idaho. À la fin de l'année, le nombre total de temples en service était de 140.
We will now be pleased to hear from
Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre Richard G. Scott et Quentin L. Cook du Collège des Douze Apôtres. Ensuite, le chœur et l'assemblée se lèveront et chanteront « Hosanna au grand roi ». Après le cantique d'intermède, Stanley G. Ellis et John B. Dixon des 70 s'adresseront à nous. Ils seront suivis par David Abednar, du Collège des Douze Apôtres.
Many voices.
De nombreuses voix du monde qui nous entoure nous incitent à vivre à un rythme effréné. Il y a toujours plus à faire et plus à accomplir. Pourtant, au fond de chacun d'entre nous, il y a le besoin d'avoir un lieu de refuge où règne la paix et la sérénité. Un endroit où nous rétablir, nous ressaisir et nous ressourcer pour nous préparer aux pressions à venir. L'endroit idéal pour cette paix est notre foyer, où nous avons fait tout notre possible pour faire du Seigneur Jésus-Christ la clé de voûte. Certains foyers comprennent un père qui est un détenteur de la prêtrise digne, accompagné d'une mère dévouée et fidèle, et ils dirigent ensemble en justice. Beaucoup de foyers ont une configuration différente. Quelle que soit votre situation, vous pouvez centrer votre foyer et votre vie sur le Seigneur Jésus-Christ, car il est la source de la paix véritable dans cette vie. Assurez-vous que chaque décision que vous prenez, temporelle ou spirituelle, est basée sur ce que le Sauveur voudrait que vous fassiez. Lorsqu'il est le centre de votre foyer, celui-ci est rempli de paix et de sérénité. Il y règne un esprit d'assurance que ressentent tous ceux qui y demeurent. L'accomplissement de cette recommandation ne repose pas seulement sur les parents, bien qu'ils aient le rôle de diriger. Les enfants peuvent être responsables de l'amélioration des efforts centrés sur le Christ au foyer. Il est important que les parents leur enseignent à prendre conscience de la façon dont leurs actions influencent chacune des personnes qui y vivent. Les enfants, à qui l'on apprend à se sentir responsables de leurs actes, qu'ils soient justes ou non, deviennent des citoyens dignes de confiance dans le royaume de Dieu. Je suis sûr que vous pouvez trouver les principes fondamentaux qui centrent votre foyer sur le Sauveur. Les conseils des prophètes de prier et d'étudier les Écritures chaque jour, individuellement et en famille, et de tenir chaque semaine la soirée familiale représente les poutres principales dans la construction d'un foyer centré sur le Christ. Sans ces pratiques régulières, il sera difficile de trouver la paix désirée et bien nécessaire et un refuge contre le monde. Obéissez aux enseignements des prophètes que le Christ désire que vous suiviez. Ne compromettez pas le bonheur à venir en prenant des raccourcis au lieu d'impliquer des principes de l'Évangile sûr. N'oubliez pas, les petites choses mènent aux grandes. Des imprudences ou négligences apparemment insignifiantes peuvent entraîner de grands problèmes. Chose plus importante encore, de bonnes habitudes simples et constantes conduisent à une vie pleine de bénédictions. Vous, enfants de la primaire, vous, jeunes gens et jeunes filles dans les programmes de la jeunesse, et vous, missionnaires fidèles dans le champ de la mission. Vous faites beaucoup de choses de façon plus efficace que je ne pouvais les faire à votre âge. Dans la vie prémortelle, vous vous êtes révélé vaillant, obéissant et pur. Là, vous avez travaillé dur pour cultiver les talents et des capacités pour vous préparer à affronter la condition mortelle avec courage, dignité, honneur et réussite. Il n'y a pas longtemps, vous êtes venu ici-bas avec toutes ces capacités magnifiques et des possibilités infinies. Pourtant, il existe un danger réel dans le milieu qui vous entoure. Votre grand potentiel, vos grandes capacités pourraient être limitées ou détruites si vous cédiez à la contamination environnante inspirée par le diable. Toutefois, Satan ne peut pas se mesurer au Sauveur. Son destin est décidé, il sait qu'il a perdu, mais il veut entraîner avec lui autant de personnes qu'il peut. Il essayera de détruire votre bonté et vos capacités en se servant de vos faiblesses. Restez du côté du Seigneur et vous serez toujours gagnant. Vous vivez dans un monde où la technologie progresse à un rythme stupéfiant. Beaucoup de personnes de ma génération ont du mal à suivre ces possibilités. Selon l'usage que l'on fait de la technologie, ces progrès peuvent s'avérer une bénédiction ou un obstacle. La technologie, lorsqu'elle est comprise et utilisée à des fins justes, n'est pas nécessairement une menace, mais une amélioration de la communication spirituelle. Par exemple, beaucoup d'entre nous possèdent un appareil électronique personnel qui entre dans notre poche. Nous nous en séparons rarement. Souvent, nous le consultons de nombreuses fois par jour. Malheureusement, ces appareils peuvent être une source de grossièreté et une perte de temps. Mais utilisée avec discipline, cette technologie peut être un outil de protection contre les pires aspects de la société. Qui aurait pu imaginer, il n'y a pas si longtemps, pouvoir mettre tous les ouvrages canoniques et des années de messages de la Conférence Générale dans sa poche? Les avoir simplement dans votre poche ne vous protégera pas. Mais les étudier, méditer et les écouter chaque jour pendant des moments calmes améliorera la communication par l'intermédiaire de l'esprit. Adoptez la technologie avec sagesse. Marquez des écritures importantes sur votre appareil et consultez-les souvent. Si vous, les jeunes, vous relisiez un verset d'écriture aussi souvent que certains d'entre vous envoient des messages textes, vous pourriez bientôt connaître par cœur des centaines de passages. Ces passages s'avéreraient être une grande source d'inspiration et de soutien par le Saint-Esprit dans les moments de besoin. Dans nos efforts pour centrer notre foyer sur le Sauveur, il est essentiel que nous fassions tout notre possible pour avoir l'influence directrice du Saint-Esprit dans notre vie. Le fait d'obéir à ses murmures et d'agir nous fortifie encore plus. Une paix plus grande vous sera donnée si vous ajoutez à votre obéissance le service aux gens qui vous entourent. Il y a tellement de personnes dotées de ce qu'elles considèrent comme des talents modestes qui les utilisent humblement et généreusement pour faire du bien autour d'elles. L'égoïsme est la racine d'un grand mal. L'antidote à ce mal est illustré dans la vie du Sauveur. Il nous montre comment centrer notre vie sur les autres en les servant avec altruisme. J'ai appris une vérité qui s'est répétée si souvent dans ma vie que je me suis rendu compte qu'il s'agit d'une loi absolue. Elle définit la relation entre l'obéissance et le service d'une part, et le pouvoir de Dieu d'autre part. Lorsque nous respectons les commandements du Seigneur et servons ses enfants de façon désintéressée, la conséquence naturelle est le pouvoir qui nous vient de Dieu. Le pouvoir de faire plus que nous ne pouvons faire par nous-mêmes. Nos idées, nos talents, nos capacités sont développés parce que nous recevons de la force et du pouvoir du Seigneur. Son pouvoir est un élément fondamental dans la création d'un foyer rempli de paix. Lorsque vous centrez votre foyer sur le Sauveur, il devient tout naturellement un refuge, non seulement pour votre famille, mais aussi pour des amis qui vivent dans des conditions plus difficiles. Ils seront attirés par la sérénité qu'ils y ressentent. Accueillez-les chez vous. Ils s'épanouiront dans ce cadre centré sur le Christ. Liez-vous d'amitié avec les amis de vos enfants. Soyez pour eux un exemple digne. L'une des plus grandes bénédictions que nous puissions offrir au monde est le pouvoir d'un foyer centré sur le Christ, où l'on enseigne l'Évangile, où l'on respecte les alliances et où l'amour abonde. Il y a des années, à la suite de la visite d'une mission, ma femme Janine m'a parlé d'un missionnaire qu'elle avait rencontré. Elle l'avait interrogé sur sa famille. Elle avait été surprise quand il lui avait dit qu'il n'avait pas de famille. Il avait ensuite expliqué qu'à sa naissance, sa mère l'avait confié à l'État. Il avait passé son enfance d'une famille d'accueil à l'autre. Pendant son adolescence, il avait eu la bénédiction de trouver l'Évangile. Une famille aimante de la paroisse l'avait aidé à pouvoir faire une mission. Plus tard, Janine a posé des questions sur cet excellent missionnaire à la femme du président de mission. Elle a appris que quelques mois auparavant, il avait passé quelques jours au siège de la mission à cause d'une maladie. Pendant ce temps, il s'était joint à eux pour une soirée familiale. Avant de retourner dans le champ de la mission, il a demandé à son président si à la fin de sa mission, il pouvait de nouveau passer 2 ou 3 jours au siège de la mission. Il voulait observer comment fonctionne un foyer centré sur le Christ. Il voulait modeler sa famille sur la leur. Faites tout votre possible pour avoir précisément un tel foyer. Tendez la main aux gens qui vivent dans des conditions défavorables. Soyez un véritable ami. Cette sorte d'amitié durable est comme l'asphalte qui remplit les nids de poules de la vie et rend notre voyage plus doux et plus agréable. Elle ne devrait pas être un moyen dont on se sert pour obtenir un avantage personnel, mais un trésor à apprécier et à partager. Accueillez dans votre foyer d'autres personnes qui ont besoin d'être fortifiées par cette sorte d'expérience. Je propose quelques pensées finales à l'intention des gens qui aiment un membre de leur famille qui ne fait pas de bon choix. Cela peut mettre à l'épreuve notre patience et notre persévérance. Nous devons avoir la confiance que le Seigneur, au moment voulu par lui, donnera une réponse positive à nos prières et à nos efforts de sauvetage. Nous faisons tout notre possible pour rendre service, pour faire du bien et pour reconnaître humblement la volonté de Dieu en toutes choses. Nous exerçons la foi et nous nous souvenons que certaines choses doivent être laissées au Seigneur. Il nous invite à déposer nos fardeaux à ses pieds. Avec la foi, nous pouvons savoir que cet être cher égaré n'est pas abandonné, mais qu'un Sauveur aimant veille sur lui. Soyez attentifs aux qualités des autres, pas à leurs tâches. Parfois, une tâche réclame une certaine attention pour être nettoyée, mais construisez toujours sur les qualités des gens. Lorsque vous avez le sentiment qu'il ne reste plus qu'un mince filet d'espoir, en réalité, ce n'est pas un filet, mais un lien massif comme une bouée de sauvetage pour vous fortifier et vous élever. Il vous donnera du réconfort afin que vous puissiez cesser de craindre. Efforcez-vous de vivre dignement et placez votre confiance dans le Seigneur. Nous ne devons pas nous inquiéter si nous ne pouvons pas faire en même temps toutes les choses que le Seigneur nous a conseillé de faire. Il a aussi dit qu'il y a un temps et une saison pour toutes choses. En réponse à nos prières sincères pour être guidés, il nous dirigera dans ce qui doit avoir la priorité dans chaque phase de notre vie. Nous pouvons apprendre, progresser et devenir comme lui. Une étape cohérente à la fois. Je témoigne que mener une vie d'obéissance fermement enracinée dans l'Évangile de Jésus-Christ offre la plus grande garantie de paix et le meilleur refuge dans notre foyer. Il y aura encore beaucoup de difficultés ou de chagrins. Mais même en pleine tourmente, nous pouvons jouir de la paix intérieure et d'un bonheur profond. Je témoigne que l'expiation de Jésus-Christ est la source de cette paix abondante. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Des expériences récentes m'ont amené à réfléchir à la doctrine de la paix et en particulier au rôle de Jésus-Christ qui aide chacun de nous à obtenir une paix personnelle durable. Deux événements m'ont profondément touché au cours des quelques mois passés. Premièrement, j'ai pris la parole lors des obsèques d'Emily Parker, adorable petite fille de 6 ans qui a perdu la vie en même temps que 25 autres personnes dont 19 enfants lors d'une fusillade tragique à Newton, dans le Connecticut. J'ai pleuré avec sa famille. J'ai constaté que beaucoup de personnes avaient été privées de la paix. J'ai trouvé de la force et de la foi chez ses parents, Robert et Alyssa Parker. Deuxièmement, j'ai rencontré des milliers de membres fidèles de l'Église à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ce pays francophone d'Afrique occidentale a connu des difficultés économiques, un coup d'État militaire et deux guerres civiles récentes jusqu'en 2011. Pourtant, j'ai ressenti une paix particulière en leur présence. Il survient fréquemment des événements qui nous privent de la paix et accroissent notre sentiment de vulnérabilité. Qui peut oublier les attaques maléfiques du 11 septembre 2001 à différents endroits des États-Unis? De tels événements nous rappelle combien nos sentiments de paix et de sécurité peuvent être détruits rapidement. Notre fils aîné et sa femme, qui attendaient leur premier enfant, vivaient à trois pâtés de maison du World Trade Center de New York quand le premier avion s'est écrasé dans la tour nord. Ils sont montés sur le toit de leur immeuble et ont été horrifiés à la vue de ce qu'ils croyaient être un terrible accident. Ensuite, ils ont vu le deuxième avion percuter la tour sud. Ils ont compris immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un accident, mais que le sud de Manhattan était pris pour cible. Quand la tour sud s'est effondrée, leur immeuble a été englouti dans le nuage de poussière qui s'est abattu sur le sud de Manhattan. Perplexes devant ce dont ils avaient été témoins et craignant d'autres attaques, ils se sont rendus dans une zone plus sûre, puis au centre de pieux de Manhattan, au Lincoln Center. Quand ils sont arrivés, ils se sont rendus compte que des dizaines d'autres membres du sud de Manhattan avaient pris la même décision de se rassembler au centre de pieux. Ils ont téléphoné pour nous dire où ils se trouvaient. J'étais soulagé de les savoir sains et saufs, mais pas surpris d'apprendre où ils se trouvaient. La révélation moderne nous enseigne que les pieux de Sion seront une défense et un refuge contre la tempête et contre la colère lorsqu'elle sera déversée sans mélange sur toute la terre. Ils n'ont pu retourner à leur appartement que plus d'une semaine plus tard. Ils étaient effondrés devant la perte de vies innocentes, mais ils n'ont pas subi de dommages permanents. En réfléchissant à ces événements, j'ai été impressionné par la différence doctrinale qui existe entre la paix universelle ou la paix du monde et la paix personnelle. À la naissance du Sauveur, une multitude des armées célestes a loué Dieu et proclamé « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent ». Néanmoins, il est poignant de constater que même dans cette période d'une importance éternelle qui a suivi la naissance du Fils de Dieu, le roi Hérode a ordonné le massacre des petits-enfants innocents de Bethléem. Le libre-arbitre est essentiel au plan du bonheur. Il permet l'amour, le sacrifice, la progression personnelle et l'expérience nécessaire à notre progression éternelle. Ce libre-arbitre explique aussi l'existence de la douleur et des souffrances que nous connaissons dans la condition mortelle, même lorsqu'elles sont causées par des choses que nous ne comprenons pas et par les mauvais choix destructeurs des autres. La guerre dans les cieux elle-même avait pour enjeu notre libre-arbitre moral et est essentielle à la compréhension du ministère terrestre du Sauveur. Comme cela est rapporté au 10e chapitre de Matthieu, le Sauveur a instruit les 12 et reconnu que sa mission n'apporterait pas la paix universelle dans la condition mortelle. Les apôtres ont reçu le commandement de laisser la paix sur les maisons dignes qu'ils visitaient, mais ont été avertis qu'ils seraient au milieu des loups et haïs de tous à cause de son nom. Mais celui qui persévérerait jusqu'à la fin serait sauvé. Un avertissement important est donné au verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Il est clair que la paix universelle n'existait pas sur la terre pendant le ministère mortel du Christ, et elle n'existe pas non plus aujourd'hui. Dans la préface du Seigneur aux Doctrines et Alliances, plusieurs principes très importants sont enseignés. Pour ce qui concerne les gens qui ne se repentent pas, son esprit, l'esprit du Christ, qui est donné à toute personne qui vit au monde, ne luttera pas toujours avec l'homme. D'autre part, la paix sera enlevée de la terre. Les prophètes ont déclaré que la paix a effectivement été ôtée de la terre. Lucifer n'a pas encore été lié et exerce le pouvoir sur son empire. L'aspiration céleste des bonnes personnes de partout a toujours été et sera toujours d'avoir la paix dans le monde. Nous ne devons jamais renoncer à atteindre ce but. Cependant, Joseph F. Smith a enseigné que l'esprit de paix et d'amour ne pourra jamais arriver dans le monde tant que l'humanité ne recevra pas la vérité de Dieu et son message et ne reconnaîtra pas son pouvoir et son autorité qui sont divins. Nous prions avec ferveur pour la paix universelle que nous espérons ardemment, mais c'est en tant qu'individu et en tant que famille que nous obtenons le genre de paix qui est la récompense promise de la justice. Cette paix est un don qui nous est promis par la mission du Sauveur et son sacrifice expiatoire. Ce principe est décrit succinctement dans les Doctrines et Alliances. Mais apprenez que celui qui accomplit les œuvres de la justice recevra sa récompense, c'est-à-dire la paix dans ce monde et la vie éternelle dans le monde à venir. John Taylor a enseigné que la paix est non seulement désirable, mais également quel est le don de Dieu. La paix dont je parle n'est pas simplement une tranquillité temporaire, c'est un bonheur profond et durable et un contentement spirituel. Heber G. Grant a donné cette description de la paix du Sauveur. Sa paix soulagera nos souffrances, pansera notre cœur brisé, effacera notre haine, éveillera dans notre sein l'amour de notre prochain, qui remplira notre cœur de tranquillité et de bonheur. Dans mes rencontres avec les parents d'Emily Parker, la paix du Sauveur a apaisé leurs souffrances. Elle aide à panser leur cœur brisé. Fait remarquable, immédiatement après la fusillade, Frère Parker a exprimé son pardon au meurtrier. Comme l'a dit le président Grant, la paix du Sauveur peut effacer notre haine. Le jugement appartient au Seigneur. Pendant la période de guerre civile qui a sévi dans leur pays, Les saints de Côte d'Ivoire ont trouvé la paix en s'attachant à vivre l'évangile de Jésus-Christ et en mettant particulièrement l'accent sur l'histoire familiale et l'œuvre du temple pour leurs ancêtres. Nous aspirons tous à la paix. La paix n'est pas simplement la sécurité ou l'absence de guerre, de violence, de conflits et de querelles. La paix vient de notre connaissance que le Sauveur sait qui nous sommes et que nous avons foi en lui. L'aimons et respectons ses commandements, même et surtout au milieu des épreuves et des tragédies dévastatrices de la vie. La réponse du Seigneur à Joseph Smith, le prophète dans la prison de Liberty, apporte la consolation. Mon fils, que la paix soit en ton âme. Ton adversité et tes afflictions ne seront que pour un peu de temps. Et alors, si tu les supportes bien, Dieu t'exaltera en haut. Tu triompheras de tous tes ennemis. Souvenez-vous que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais l'auteur de la paix. Pour ceux qui rejettent Dieu, il n'y a pas de paix. Nous avons tous pris part au conseil dans les cieux qui ont garanti le libre arbitre moral, sachant que le mauvais usage du libre arbitre entraînerait des douleurs mortelles et même des tragédies indescriptibles. Nous comprenions que cela pourrait nous amener à être en colère, désorientés, sans défense et vulnérables. Mais nous savions aussi que l'expiation du Sauveur surmonterait et compenserait toute l'injustice de la condition mortelle et nous apporterait la paix. Marion D. Hanks avait sur son mur un cadre renfermant une citation d'Hugo Betty. Croire en Dieu, c'est savoir que toutes les règles seront justes et qu'il y aura de merveilleuses surprises. Quelles sont les sources de la paix? Beaucoup de gens recherchent la paix par les moyens du monde qui n'ont jamais permis et ne permettront jamais de l'obtenir. On ne trouve pas la paix en devenant très riche, très puissant ou très important. On ne trouve pas la paix en recherchant les plaisirs, les divertissements ou les loisirs. Même une abondance de ces choses ne peut pas apporter de bonheur ou de paix durable. Le beau cantique d'Emma Lou Thane pose la question légitime. Où pourrais-je chercher la paix de l'âme quand je ne peux trouver nul réconfort? La réponse est le Sauveur, qui est la source et l'auteur de la paix. Il est le prince de la paix. Comment restons-nous proches du Sauveur? Nous humilier devant Dieu, prier toujours, nous repentir de nos péchés, entrer dans les eaux du baptême, le cœur brisé et l'esprit contrit, et devenir de vrais disciples de Jésus-Christ sont autant d'exemples profonds de la justice qui est récompensée par une paix durable. Après que le roi Benjamin eut délivré son message émouvant concernant l'expiation du Christ, la multitude était tombée par terre. L'Esprit du Seigneur vint sur elle et elle fut remplie de joie, ayant reçu le pardon de ses péchés et ayant la conscience en paix, à cause de la foi extrême qu'elle avait en Jésus-Christ. Le repentir et une vie juste permettent d'avoir la conscience en paix, ce qui est essentiel au contentement. Lorsqu'on a commis une transgression grave, la confession est nécessaire pour trouver la paix. Il n'y a peut-être rien de comparable à la paix qui s'installe lorsqu'une âme ternie par le péché décharge son fardeau sur le Seigneur et demande à bénéficier de l'expiation. Comme un autre cantique de l'Église l'exprime, « Je déposerai mon fardeau à ses pieds et emporterai un chant. » J'ai de la joie au cœur quand je pense qu'à notre époque, des dizaines de milliers de jeunes gens, de jeunes filles et de missionnaires d'âge mûr ont accepté l'appel d'être des émissaires de Jésus-Christ, notre Sauveur et Sauveur. Ils apportent au monde l'Évangile de Père établi, une personne et une famille à la fois, accomplissant une œuvre de justice pour apporter cette paix aux enfants de notre Père Céleste. L'Église est un refuge où les disciples du Christ obtiennent la paix. Il y a dans le monde des jeunes qui disent qu'ils sont spirituels mais qu'ils ne sont pas religieux. Se sentir spirituel est un bon premier pas, mais c'est dans l'Église que nous sommes intégrés, instruits et nourris de la bonne parole de Dieu. Chose plus importante encore, c'est l'autorité de la prêtrise qui, dans l'Église, permet d'accomplir les ordonnances et les alliances sacrées qui scellent les familles et permettent à chacun de nous de retourner auprès de Dieu le Père et de Jésus-Christ dans le royaume céleste. Ces ordonnances apportent la paix parce qu'elles sont des alliances avec le Seigneur. Beaucoup de ces ordonnances sacrées s'accomplissent dans les temples et qui constituent aussi un refuge où règne la paix à l'abri du monde. Les personnes qui se promènent dans les jardins du temple ou participent à des visites guidées dans des temples ressentent aussi cette paix. J'ai à l'esprit une expérience particulière, les visites guidées, la consécration du temple de Fidji. Il y avait eu des bouleversements politiques et les rebelles avaient brûlé et pillé le centre-ville de Suva, occupé les bâtiments du Parlement et pris des législateurs en otage. Le pays était sous la loi martiale. L'armée a donné à l'Église une autorisation restreinte de réunir des gens pour les visites guidées et un très petit groupe pour la consécration. Les membres dans leur ensemble n'ont pas été invités pour des raisons de sécurité. C'était la seule consécration d'un temple à se dérouler dans des circonstances très difficiles depuis la consécration du temple originel de Novo. Une des personnes invitées aux visites guidées était une charmante hindoue d'ascendance indienne, une députée qui avait d'abord été prise en otage, mais qu'on avait relâchée ensuite parce qu'elle était une femme. Dans la salle céleste, à l'abri de l'agitation du monde, elle a littéralement fondu en larmes, tandis qu'elle exprimait le sentiment de paix qui l'envahissait. Elle ressentait le Saint-Esprit qui la réconfortait et lui rendait témoignage de la nature sacrée du temple. Le Sauveur est la source de la vraie paix. Même dans les épreuves de la vie, l'expiation du Sauveur et sa grâce permettent aux gens qui mènent une vie juste d'avoir la paix personnelle pour récompense. Dans le cadre intime de la chambre haute de la Pâque, le Sauveur a promis à ses apôtres qu'ils auraient la bénédiction d'avoir le Consolateur qui est le Saint-Esprit, et a ensuite prononcé ces paroles importantes. « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Puis juste avant sa prière d'intercession, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Eliza R. Snow a joliment exprimé ce concept. Partout la lutte et les tourments, mais ne perdons jamais la foi. Christ nous répète à chaque instant, tu trouveras la paix en moi. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.
This is the 183rd annual General Conference.
Vous assistez à la 183e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours.
Mes frères et sœurs, la reconnaissance, j'aimerais vraiment, j'ai mis ma cravate des vertus en hommage à la présence des jeunes filles qui vient d'être relevée. Mes frères et sœurs, je suis un 70. Les 70 sont appelés à être des messagers, à annoncer la parole du Seigneur telle que nous la recevons des apôtres et des prophètes et de l'Esprit, être des témoins spéciaux du nom du Christ en prêchant l'Évangile dans le monde entier, en édifiant l'Église et en réglant les affaires. J'ai grandi dans une ferme près de Burley, en Idaho. Je suis un véritable paysan d'Idaho. En tant que tel, j'ai appris premièrement à travailler. Si l'on ne sème pas, on ne récolte pas. À travailler intelligemment. Si l'on irrigue et si l'on fertilise, on récolte davantage. L'importance de faire les choses au bon moment. Si l'on ne sème pas au bon moment, le gel précoce peut détruire la récolte. À faire ce qu'il faut ou ce qui doit être fait, indépendamment du fait que ce soit agréable, que ce soit ce que l'on préfère ou que ce soit ce que cela nous arrange ou non. On traite la vache quand elle en a besoin, pas quand on en a envie. À être direct, avec du bétail et des machines, on n'a pas le temps de tourner autour du pot ou de s'inquiéter du politiquement correct. À cet égard, dans tous les endroits où j'étais amené à servir pour l'Église, j'ai souvent posé la question, voulez-vous que je sois direct ou que je mette des gants? D'habitude, les saints choisissent direct, et c'est ce que je serai aujourd'hui. Pour finir, en paysan d'Idaho, j'ai appris à m'en tenir à ce qui est fondamental. Rien n'est plus fondamental pour nous et pour notre doctrine que les vérités énoncées dans le premier article de foi. Nous croyons en Dieu le Père éternel et en son Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit. De plus, il est notre Père céleste qui nous connaît, qui nous aime et veut que nous retournions à lui. Jésus est notre Sauveur et Rédempteur, celui qui par l'expiation a rendu certaine notre victoire sur la mort et notre résurrection, celui qui nous donne la possibilité d'être exaltés et d'avoir la vie éternelle. Le Saint-Esprit est notre consolateur, révélateur, instructeur, témoin et guide. Songez-y, frères et sœurs. Nous ne sommes pas des orphelins spirituels. Nous ne sommes pas seuls. Quels sont les avantages d'avoir des parents et de ne pas être orphelin? Nous pouvons apprendre d'eux, bénéficier de leur expérience, éviter les pièges contre lesquels ils nous mettent en garde et comprendre mieux grâce à la perspective qu'ils ont. Nous n'avons pas à être perdus, désorientés, trompés ou moins efficaces. Cela est particulièrement vrai dans le cas de notre Père Céleste qui nous a enseigné et montré non pas une manière quelconque, mais la manière. En fait, Dieu a la manière de vivre, d'aimer, d'aider, de prier, d'agir les uns vers les autres, de diriger, de se marier, d'élever des enfants, d'apprendre, de connaître la vérité, de faire connaître l'Évangile, etc. En plus des Écritures, nous disposons de merveilleuses sources pour trouver la manière du Seigneur, tels que, ancrés dans la foi, jeunes soyez forts, et les enseignements des apôtres et des prophètes vivants. Par exemple, il nous a enseigné dans les Écritures, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Un des mots de notre époque est que chacun suit sa propre voix. Dans Proverbes, on nous met en garde. Ne sois point sage à tes propres yeux et ne t'appuie pas sur ta sagesse. On nous enseigne que si nous agissons à la manière du Seigneur, il est lié par la promesse de nous bénir et nous avons droit à ses promesses. Et si nous n'en agissons pas à sa manière, nous n'avons pas de promesse. Le Seigneur fait ressortir le contraste entre sa manière d'agir et la nôtre quand il forme le prophète Samuel envoyé trouver un nouveau roi. Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Même dans notre désir universellement accepté d'aider les pauvres et les nécessiteux, bien que le Seigneur approuve, il nous met en garde. Mais cela doit être fait à ma façon. Sinon, dans nos efforts pour les aider,
nous pourrions en réalité leur faire du mal. Le Seigneur nous a enseigné qu'il est nécessaire de promouvoir l'autonomie. Même si nous sommes capables d'aider, nous ne devrions pas donner ou fournir ce que les gens peuvent ou devraient faire par eux-mêmes. Partout où l'on essaie l'assistana, le monde en découvre les maux. Oui, Dieu sait mieux. Examinons quelques autres exemples. Le Seigneur a sa manière de faire l'œuvre missionnaire. Elle est codifiée dans les Écritures et dans « Prêcher mon évangile », puis mise en pratique selon les directives de l'Esprit. Le Seigneur a sa manière, la manière d'aimer. Ceux qui sont du monde disent que ce qui compte véritablement, c'est que deux personnes s'aiment. Notre Père Céleste enseigne que c'est important, mais il va encore plus loin. Il existe une manière et un temps autorisé pour exprimer cet amour. Dès sa jeunesse, Joseph Smith avait appris la manière d'agir du Seigneur. Quand on lui a demandé comment il dirigeait l'Église, il a répondu qu'il enseignait des principes corrects et que les membres se gouvernaient eux-mêmes. Une chose qui nous a souvent été enseignée est que nous devons nous épanouir là où nous sommes plantés. Cependant, parfois, nous sommes tentés de déménager dans une nouvelle région parce que nous pensons que nos enfants auront plus d'amis et par conséquent de meilleurs programmes pour les jeunes. Frères et sœurs, pensons-nous réellement que le facteur déterminant dans le salut de nos enfants est le quartier où nous vivons? Les apôtres et les prophètes nous ont souvent enseigné que ce qui se passe au sein du foyer est de loin plus important pour les jeunes que ce qu'ils rencontrent en dehors. La manière dont nous élevons nos enfants est plus importante que l'endroit où nous les élevons. Certainement que d'autres facteurs interviennent dans le choix de l'endroit où nous voulons vivre, et heureusement, le Seigneur nous guidera si nous recherchons sa confirmation. Une autre question qui se posait, où a-t-on besoin de nous? J'ai fait partie pendant 16 ans de la présidence du Pieux Nord de Houston, au Texas. De nombreuses personnes ont aménagé dans notre région pendant ces années. Il nous arrivait souvent de recevoir un appel téléphonique pour nous annoncer que quelqu'un allait déménager et voulait savoir quelle était la meilleure paroisse. Je n'ai reçu qu'une seule fois en 16 ans un appel disant « Quelle paroisse a besoin d'une bonne famille ?» Où pouvons-nous aider ? Dans les premières années de l'Église, Brigham Young et d'autres personnes appelaient les membres à aller à tel ou tel endroit afin d'y édifier l'Église. L'ironie des choses, c'est que, même maintenant, nous avons partout des membres fidèles de l'Église qui iraient là où le prophète leur dirait d'aller. Attendons-nous vraiment du président Monson qu'il dise individuellement aux plus de 14 millions d'entre nous où l'on a besoin de notre famille? La manière du Seigneur, c'est que nous écoutions les enseignements de nos dirigeants, que nous comprenions les principes corrects et que nous nous gouvernions nous-mêmes. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église et avec le Seigneur qui hâte son œuvre de tous côtés, il est d'autant plus important que tout ce que nous faisons, nous le fassions à sa manière. C'est surtout dans l'œuvre du salut que nous apprenons que dans le don de son Fils, Dieu a préparé une voie par excellence. La doctrine du Christ est qu'il n'y a aucun autre chemin, ni aucun autre nom donné sous le ciel par lequel l'homme puisse être sauvé dans le royaume de Dieu. Quand nous voyons tant de gens dans le monde aujourd'hui vivre dans la confusion ou pire, errer dans des chemins défendus et souffrir inutilement des conséquences de mauvais choix, j'ai envie de m'exclamer comme Alma, « Oh, que je voudrais être un ange et satisfaire le souhait de mon cœur, d'aller et de parler avec la trompette de Dieu, d'une voix qui fait trembler la terre et d'appeler tous les peuples au repentir. Oui, j'annoncerai à toute âme le plan de rédemption, afin qu'elle se repente et vienne à notre Dieu et à ses manières de faire, afin qu'il n'y ait plus de tristesse sur toute la surface de la terre. » Encore une fois, je témoigne que le Seigneur a la manière. Notre Père Céleste nous connaît, il nous aime et veut nous aider. Il sait mieux que quiconque comment nous aider. Nous ne sommes pas des orphelins spirituels. Notre Sauveur Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Sa manière repose sur la vérité éternelle qui nous guide vers la paix dans ce monde et la vie éternelle dans le monde à venir. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.
The Savior's mortal ministry was complete.
Le ministère terrestre du Sauveur était terminé. La souffrance à Gethsémané et sur la croix avait pris fin. Nous lisons dans les Actes chapitre 1 qu'il s'est montré pendant 40 jours après sa résurrection. il leur a apparu aux apôtres et par des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Peu après, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. En effet, le Sauveur reviendra à sa seconde venue, mais entre-temps, l'évangile de Jésus-Christ devait aller jusqu'aux extrémités de la terre. Nous apprenons par Matthieu que les apôtres ont la mission spéciale de porter l'évangile à toutes les nations. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pendant les premiers jours de l'Église, au midi des temps, l'Évangile n'a été apporté qu'à la maison d'Israël. Ensuite, Pierre, le chef des apôtres, a reçu la révélation que le temps était arrivé de porter l'Évangile aux gentils en plus d'Israël. Les chapitres 10 et 11 des Actes nous aident à comprendre le processus et la manière par lesquelles les officiers présidents et l'ensemble des membres ont été informés de la nécessité d'étendre l'Église à un plus grand nombre d'enfants de Dieu. En utilisant le païen Corneille, centurion et homme bon, le Seigneur a fait comprendre à Pierre que l'Évangile allait être apporté aux païens, une notion nouvelle et étrangère au sein de l'époque. La révélation apportant ce changement dans les affaires de l'Église fut donnée à Pierre, le chef des apôtres. Nous savons que l'Évangile s'est alors rapidement répandu dans les nations païennes. Un exemple de l'expansion de l'Église à cette époque a été la conversion de Paul, qui est devenu le grand apôtre des gentils. Il eut sur le chemin de Damas une vision dans laquelle il vit une lumière et entendit une voix, se repentit de ses péchés, fut appelé de Dieu et devint ensuite une force formidable dans la diffusion de l'Évangile de Jésus-Christ. Maintenant, avançons de 1800 ans jusqu'au moment du rétablissement de l'Évangile ou de la restitution de toutes choses avant la seconde venue. Je témoigne que par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, l'Église a été rétablie et continue d'avancer sous la direction de la première présidence et du Collège des douze apôtres. Leur mission de porter l'Évangile au monde est la même que celle des apôtres autrefois. Depuis le jour de son organisation en 1830, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours s'est répandue de manière constante d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, d'un peuple à l'autre, selon le calendrier et au rythme du Seigneur. Puis en 1978, selon le processus établi de la révélation par l'intermédiaire du chef des apôtres, Spencer W. Kimball, cette fois, est venue la révélation sur la prêtrise permettant à tous les hommes dignes de par le monde de recevoir la prêtrise et d'aider leurs familles et d'autres à recevoir toutes les bénédictions de l'Évangile rétabli. Cette fois, non seulement d'autres enfants, mais tous les enfants de notre Père Céleste pourraient avoir toutes les bénédictions de l'Évangile. Événement tout à fait pertinent pour le royaume de Dieu sur la terre au moment où s'approche la seconde venue du Christ. Quant à moi, je venais juste d'être appelé comme président de mission. Sœur Dixon et moi-même étions sur le point d'emmener notre famille au Mexique quand Richard G. Scott, à l'époque membre des 70, m'a dit que cette révélation spéciale avait été donnée. Je me souviens que les larmes me sont montées aux yeux quand il me racontait ce qui était arrivé. J'en étais resté sans voix, tellement j'étais heureux, car je savais que c'était juste et que le temps était venu que toute l'humanité ait accès à toutes les ordonnances, alliances et bénédictions de l'Évangile. C'était il y a 34 ans, et j'étais loin de me douter à l'époque que je passerais plusieurs années de mon ministère en tant que 70 dans l'interrégion de l'Afrique de l'Ouest, parmi un peuple croyant et fidèle, dont la vie serait profondément changée par la révélation de 1978 sur la prêtrise. Sœur Dixon et moi-même avons vécu là-bas pendant 4 ans, et cela a été une expérience merveilleuse, et notre vie en a été changée. Les gens d'Afrique de l'Ouest croient en Dieu, n'ont absolument aucune honte à déclarer et faire connaître leur foi aux autres, et ont d'extraordinaires capacités de dirigeants. Ils entrent dans l'église par centaines, et à peu près toutes les semaines, plusieurs paroisses ou branches sont créées dans l'interrégion d'Afrique de l'Ouest. Et dans presque chaque cas, les dirigeants de la prêtrise et des auxiliaires sont tous africains. Comme je voudrais que vous puissiez vous joindre au sein du temple d'Abba, au Nigeria, ou d'Accra, au Ghana, pour ressentir leur engagement et faire la connaissance des présidences africaines des temples ou rencontrer les 70 interrégions africains qui sont réunis aujourd'hui avec nous ici au centre de conférence, qui sont hommes de loi, professeurs, chefs d'entreprise. J'aimerais aussi vous présenter les dirigeants africains de pieux et de paroisses et leurs familles. Dans toute l'Afrique, assister à une classe de l'école du dimanche, l'auxiliaire ou de la prêtrise est une expérience sacrée où l'on suit les programmes de l'Église et où il y a une grande compréhension de l'Évangile, où l'on enseigne et où l'on apprend par l'Esprit. L'Évangile en Afrique parvient à des gens heureux que n'encombrent pas les fioritures qui compliquent la vie de beaucoup en Occident. Ils ne se soucient pas d'avoir des biens matériels sans limite. On a dit des Africains qu'ils ont très peu de ce qui importe le moins et beaucoup de ce qui importe le plus. Ils accordent peu d'intérêt aux énormes maisons et aux belles voitures, mais accordent un grand intérêt à connaître leur Père Céleste et son Fils Jésus-Christ et à avoir une famille éternelle. La conséquence naturelle de leur foi est que le Seigneur les soutient de nombreuses manières. Les connaissant comme nous les connaissons, cela ne nous surprend pas qu'ils soient une partie si importante de l'expansion de l'Église de Jésus-Christ dans les derniers jours. Lorsque Daniel, le prophète de l'Ancien Testament, a eu la vision du royaume de Dieu dans les derniers jours, roulant jusqu'aux extrémités de la terre, comme la pierre détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, et roulera jusqu'à remplir la terre, il est tout à fait approprié que nos merveilleux frères et sœurs africains représentent une part importante de l'accomplissement de cette prophétie et que les révélations qui font qu'il en est ainsi suivent le processus établi par le Seigneur. Je témoigne que notre Père Céleste aime tous ses enfants, que Jésus est le Christ et que l'Évangile est accessible à tous, aux vivants comme aux morts. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Mon
message pose une question fondamentale qui a une grande importance spirituelle. Pourquoi la loi de chasteté est-elle si importante? Je prie pour que le Saint-Esprit vous confirme la véracité des principes que je vais souligner. L'importance éternelle de la chasteté ne peut être comprise que dans le contexte global du plan du bonheur de notre Père Céleste pour ses enfants. Tous les êtres humains, hommes et femmes, sont créés à l'image de Dieu. Chacun est un fils ou une fille d'esprit aimé de parents célestes et a une nature et une destinée divine. Tous les hommes et toutes les femmes ont vécu avec Dieu dont ils étaient les enfants d'esprit avant de venir sur terre, comme être mortel. Le plan du Père permet à ses fils et filles d'esprit d'obtenir un corps physique, d'acquérir l'expérience de la condition mortelle pour progresser vers l'exaltation. Notre corps physique nous permet de connaître des expériences d'une grandeur, d'une profondeur et d'une intensité que nous ne pouvions tout simplement pas obtenir dans notre existence prémortelle. Ainsi, nos relations avec autrui, notre capacité de reconnaître la vérité et d'agir en fonction, d'obéir aux principes et aux ordonnances de l'Évangile de Jésus-Christ, sont amplifiées par notre corps physique. À l'école de la condition mortelle, nous apprenons la tendresse, l'amour, la gentillesse, le bonheur, le chagrin, les déceptions, la douleur et même les épreuves dues aux limitations physiques, de façon qui nous prépare pour l'éternité. En bref, il y a des leçons que nous devons apprendre et des expériences que nous devons vivre, comme les Écritures les décrivent, selon la chair. Après que la terre a été créée, Adam a été placé dans le jardin d'Éden. Cependant, il est important de souligner que Dieu a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et Ève devint la femme d'Adam et une aide. La combinaison unique des capacités spirituelles, physiques, mentales et émotionnelles de l'homme et de la femme était nécessaire pour la mise en œuvre du plan du bonheur. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. L'homme et la femme sont censés apprendre l'un grâce à l'autre, se renforcer, se faire du bien et se compléter mutuellement. Dieu a décrété le moyen par lequel la vie sur terre est créée. Le premier commandement que Dieu a donné à Adam et Ève concernait leur potentiel de parents en tant que mari et femme. Le commandement de multiplier et de remplir la terre reste en vigueur. Ainsi, le mariage entre un homme et une femme est le canal autorisé par lequel les esprits prémortels entrent dans la condition mortelle. L'abstinence sexuelle complète avant le mariage et la fidélité totale au sein du mariage protègent la sainteté de ce canal sacré. Le pouvoir de procréation a une importance spirituelle. Le mauvais usage de ce pouvoir contrecarre les objectifs du plan du Père et de notre existence mortelle. Notre Père Céleste et son Fils bien-aimé sont des créateurs et ont confié à chacun d'entre nous une partie de leur pouvoir créateur. Les directives précises qui nous ont été données pour utiliser correctement la capacité de créer la vie sont des éléments capitaux du plan du Père. Notre conception et notre utilisation de ce pouvoir céleste détermineront dans une grande mesure notre bonheur dans la condition mortelle et notre destinée dans l'éternité. Dalena Chokes a expliqué, « La capacité de créer la vie ici-bas est le pouvoir le plus sublime que Dieu ait donné à ses enfants. Son utilisation a été définie dans le premier commandement, mais un autre commandement important a été donné pour en interdire le mauvais usage. L'insistance que nous mettons sur la loi de chasteté s'explique par la compréhension que nous avons de la place qu'occupent nos pouvoirs créateurs dans la réalisation du plan de Dieu. Toute utilisation du pouvoir de procréation en dehors des liens du mariage est, à un degré ou à un autre, une dégradation et une perversion coupable de l'attribut le plus divin de l'homme et de la femme. L'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours a une norme unique et immuable en ce qui concerne la moralité sexuelle. Les relations intimes ne sont convenables qu'entre un homme et une femme dans les liens du mariage prescrits par le plan de Dieu. Ces relations ne sont pas simplement un objet de curiosité demandant à être exploré, un appétit à satisfaire ou un genre de loisir ou de divertissement à rechercher égoïstement. Elles ne sont pas une conquête à réaliser ou un acte à accomplir. Elles sont, en fait, dans la condition mortelle, l'une des expressions suprêmes de notre nature et de notre potentiel divin, et un moyen de renforcer les liens émotionnels et spirituels entre mari et femme. Nous sommes des êtres dotés de libre arbitre et sommes définis par notre héritage divin d'enfants de Dieu, et non par des comportements sexuels, des attitudes de notre époque ou des philosophies du monde. Dans une certaine mesure, l'homme naturel décrit par le roi Benjamin est bien en vie en chacun de nous. L'homme ou la femme naturelle est impénitent, charnel, sensuel, complaisant, excessif, orgueilleux et égoïste. Comme l'a dit le président Kimball, l'homme naturel est l'homme terrestre, qui a laissé les passions animales brutes supplanter ses inclinations spirituelles. À l'inverse, l'homme ou la femme du Christ est spirituel et tient en bride toutes ses passions. Il est modéré, retenu, bienveillant et désintéressé. Les hommes et les femmes du Christ s'appuient sur la parole de Dieu, renoncent à eux-mêmes et se chargent de sa croix. Ils avancent résolument sur un chemin étroit et resserré, fait de fidélité, d'obéissance et de dévouement au Sauveur et à son Évangile. En tant que fils et filles de Dieu, nous avons hérité de lui de capacités divines. Mais nous vivons en ce moment dans un monde déchu. Les éléments mêmes dont notre corps a été tiré sont par nature déchus et assujettis en permanence au péché, à la corruption et à la mort. C'est pourquoi la chute d'Adam et ses conséquences spirituelles et temporelles nous affectent très directement par le biais de notre corps physique. Cependant, nous sommes des êtres doubles, car notre esprit, qui est la partie éternelle de notre être, est enfermé dans un corps physique soumis à la chute. Comme Jésus l'a dit avec force à l'apôtre Pierre, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La nature précise de l'épreuve de la condition mortelle peut donc être résumée par la question suivante. Vais-je répondre au penchant de l'homme naturel ou me rendre aux persuasions du Saint-Esprit, me dépouiller de l'homme naturel et devenir un saint par l'expiation du Christ, le Seigneur? C'est là l'épreuve. Tous les appétits, tous les désirs, toutes les tendances et toutes les pulsions de l'homme naturel peuvent être vaincus par l'expiation de Jésus-Christ. Nous sommes ici-bas pour cultiver des qualités divines et pour tenir en bride toutes les passions de la chair. Le plan du Père vise à donner une direction à ses enfants, afin de les aider à devenir heureux et à les ramener sains et saufs à lui avec un corps ressuscité et exalté. Notre Père Céleste désire que nous soyons ensemble dans la lumière et remplis d'espérance. À l'inverse, Lucifer travaille pour que les fils et les filles de Dieu soient dans la confusion et le malheur, afin de faire obstacle à leur progression éternelle. L'intention globale du Père des mensonges est de nous rendre tous malheureux comme lui. Lucifer veut qu'en fin de compte, nous soyons seuls, dans l'obscurité et sans espoir. Satan travaille sans relâche à fausser les éléments les plus importants du plan du Père. Il n'a pas de corps et sa progression éternelle a été arrêtée. De la même manière que l'eau qui coule dans le lit d'une rivière est arrêtée par un barrage, de même la progression éternelle de l'adversaire est arrêtée parce qu'il n'a pas de corps physique. À cause de sa rébellion, Lucifer s'est privé de toutes les bénédictions de la condition mortelle et des expériences rendues possibles par un corps de chair et d'os. Il ne peut apprendre les leçons que seul un esprit incarné peut apprendre. Il ne peut supporter la réalité de la résurrection littérale et universelle de toute l'humanité. Une signification importante du mot « damné » dans les Écritures, c'est son incapacité de continuer à se développer et à devenir comme notre Père Céleste. Le corps physique est tellement important dans le plan du bonheur du Père et pour notre développement spirituel que Lucifer cherche à s'opposer à notre progression en nous incitant à utiliser notre corps de manière incorrecte. L'une des toutes grandes ironies de l'éternité est que l'adversaire qui est malheureux, précisément parce qu'il n'a pas de corps physique, nous incite à participer à son malheur en utilisant notre corps de manière inappropriée. Ainsi, l'outil même qu'il ne possède pas est l'objectif prioritaire de ses tentatives pour nous attirer vers la destruction spirituelle. La violation de la loi de chasteté est un péché grave et un mauvais usage de notre tabernacle physique. Pour les personnes qui connaissent et comprennent le plan du salut, souiller son corps est un acte de rébellion et la négation de leur véritable identité de fils et filles de Dieu. Lorsque nous regardons vers l'éternité, au-delà de la condition mortelle, il est facile de discerner que la contrefaçon d'union que nous propose l'adversaire est temporaire et vide. Alma a conseillé à son fils Shiblon de tenir toutes ses passions en bride afin d'être rempli d'amour. Chose significative, quand nous disciplinons l'homme naturel qui est en chacun de nous, cela nous permet de ressentir un amour plus profond et plus durable pour Dieu et ses enfants. L'amour grandit quand on exerce la retenue inspirée par la vertu et diminue quand on s'abandonne à ses pulsions. Marion G. Romney a déclaré « Je ne peux imaginer bénédiction plus ardemment désirée que celle promise aux purs et aux vertueux. Jésus a parlé de récompenses particulières attachées à différentes vertus, mais a réservé la plus importante, me semble-t-il, pour les gens qui ont le cœur pur, car, dit-il, ils verront Dieu. Et non seulement verront-ils le Seigneur, mais ils se sentiront bien en sa présence. Voici la promesse du Sauveur. Que la vertu orne sans cesse tes pensées, alors ton assurance deviendra grande en la présence de Dieu. Il nous est aussi promis que si nous continuons sur le chemin de la vertu, le Saint-Esprit sera notre compagnon constant. Ainsi, quand nous vivons la loi de chasteté, cela nous attire certaines des plus grandes bénédictions que les hommes et les femmes peuvent recevoir dans la condition mortelle. L'assurance spirituelle que nous devons avoir en présence de la famille, des amis, des personnes que nous fréquentons dans l'Église et, à terme, en présence du Sauveur. Notre désir d'appartenance innée se réalise dans la justice lorsque nous marchons dans la lumière et l'espérance. Certains d'entre vous qui reçoivent ce message ont besoin de se repentir de péchés sexuels ou autres. On dit souvent du Sauveur qu'il est le grand médecin. Ce titre a une signification symbolique et littérale. Nous avons tous souffert de la douleur occasionnée par une blessure ou une plaie physique. Quand nous souffrons, en général, nous recherchons du secours et nous sommes reconnaissants des médicaments et des traitements qui aident à soulager nos souffrances. Considérez le péché comme une plaie spirituelle qui provoque la culpabilité, ou comme le décrit Alma, des remords de conscience. La culpabilité est à notre esprit ce qu'est la douleur à notre corps, un avertissement du danger et une protection contre des dommages supplémentaires. Le baume apaisant qui peut guérir nos blessures spirituelles et ôter la culpabilité découle de l'expiation du Sauveur. Cependant, ce baume ne peut être appliqué qu'en suivant les principes de la foi au Seigneur Jésus-Christ, du repentir et de l'obéissance constante. Les conséquences du repentir sincère sont la paix de la conscience, le réconfort ainsi que la guérison et le renouveau spirituel. Votre évêque ou votre président de branche est l'assistant du médecin spirituel qui a autorité pour vous aider à vous repentir et à guérir. Mais veuillez vous souvenir que l'étendue et l'intensité de votre repentir doivent être en accord avec la nature et la gravité de vos péchés, particulièrement pour les saints des derniers jours qui ont contracté une alliance sacrée. Les blessures spirituelles graves exigent un traitement soutenu et du temps pour guérir complètement et entièrement. Le point de doctrine que je décris semblera archaïque et démodé à beaucoup de gens dans un monde qui se moque de plus en plus de la sainteté de la procréation et méprise la valeur de la vie humaine. Mais les modes, la popularité ou les sondages d'opinion publique ne changent pas la vérité du Seigneur. Je promets que l'obéissance à la loi de chasteté augmentera notre bonheur dans la condition mortelle et nous permettra de progresser dans l'éternité. La chasteté et la vertu sont, ont toujours été et seront toujours ce que nous avons de plus cher et de plus précieux. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Nous remercions toutes les personnes qui se sont adressées à nous cet après-midi et nous remercions le chœur d'étudiants de l'Université Brigham Young de la belle musique qu'il a interprétée. Nous rappelons aux frères que la réunion générale de la prêtrise commencera au centre de conférence ce soir à 18h, heure d'été de Salt Lake City. La diffusion nationale de l'émission du Chœur de Tabernacle aura lieu demain matin de 9h30 à 10h, heure d'été de Salt Lake City. La session dimanche matin de la conférence suivra immédiatement. Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre Russell M. Nelson du Collège des Douze Apôtres. Après son discours, le chœur clôtera la réunion en chantant « Adomne-moi Père ». Ensuite, G. Devon Cornish, des 70, fera la prière de clôture. Frère Nelson.
Chers frères et sœurs, je me joins au président Monson et aux autres pour féliciter les personnes qui ont répondu à l'appel d'un prophète pour que nous ayons plus de missionnaires dignes. Maintenant, une vague d'enthousiasme sans précédent pour l'œuvre missionnaire balaye la terre entière. Depuis l'annonce historique du président Monson, en octobre dernier, des milliers de frères et sœurs et de couples ont été appelés, et beaucoup d'autres se préparent. Maintenant, on nous demande, que va-t-on faire avec tous ces missionnaires? La réponse est simple. Ils vont faire ce que les missionnaires ont toujours fait. Ils vont prêcher l'Évangile. Ils vont être une bénédiction pour les enfants du Dieu Tout-Puissant. Vous serez encore plus nombreux, jeunes gens et jeunes femmes, à surfer sur cette vague en vous efforçant d'être dignes d'un appel de mission. Vous voyez cela comme une vague de vérité et de justice. C'est votre chance d'être sur la crête de cette vague. Vous, les adolescents, adoptez votre nouveau programme d'études et enseignez-vous les uns aux autres la doctrine du Christ. C'est le moment pour vous de vous préparer à enseigner aux autres la bonté de Dieu. Jeunes gens et jeunes filles, vos études sont toujours importantes pour nous, pour vous et pour Dieu. Quand cela est possible, si vous désirez suivre des études supérieures après votre mission, nous vous recommandons de vous inscrire dans l'établissement de votre choix avant de partir. De nombreux établissements d'enseignement supérieur accorderont un délai de 18 à 30 mois aux futurs missionnaires pour commencer leur cursus. Cela vous permettra, frères et sœurs, de servir sans vous inquiéter de savoir où vous allez commencer vos études supérieures. Nous sommes très reconnaissants aux dirigeants des établissements d'enseignement qui permettent cette planification. Parents, enseignants et autres, surfez sur la vague en préparant notre génération montante à être digne du service missionnaire. Ce faisant, votre vie exemplaire éveillera l'intérêt de vos amis et de vos voisins. Soyez prêts à répondre aux personnes qui vous demandent pourquoi vous vivez ainsi. Soyez prêts à expliquer les raisons de l'espérance et de la joie qu'ils voient en vous. Quand on vous pose de telles questions, vous pourriez répondre en disant « Demandons aux missionnaires. » Ils peuvent nous aider. Et si vous voulez, je serai à vos côtés quand les missionnaires vous répondront et vous instruiront. Adultes, surfez sur la vague en contribuant à la préparation spirituelle, physique et financière des futurs missionnaires. Que racler les fonds de tiroir pour remplir les tirelires devienne une habitude chez vous. Couples d'âge mûr, prévoyez le moment où vous pourrez partir en mission. Nous serons très reconnaissants de votre service. D'ici là, vous pourriez peut-être envoyer votre argent en mission en contribuant au Fonds missionnaire général, comme l'a suggéré le président Monson ce matin. De plus en plus d'hommes choisis et leurs tendres épouses surfent sur la vague en étant appelés à présider des missions de l'Église. Dans ce service, ils vont modeler le destin de générations nées et à naître. Les présidents de mission détiennent les clés de la responsabilité du bien-être, de la sécurité et de la réussite de leurs missionnaires. Après consultation avec les présidents de pieux et de districts de sa mission, chaque président de mission désigne le pieu, la paroisse ou la branche dans lesquelles les missionnaires iront servir.
Les présidents de pieux et les évêques surfent sur la vague. Quand ils passent de plus en plus de temps à s'entretenir avec de futurs missionnaires, ces dirigeants de la prêtrise ont la responsabilité de l'œuvre missionnaire dans leur unité et ils inspirent leurs membres de participer. Frères et sœurs, dans chaque conseil de paroisse, les personnes commencent à surfer sur la vague. Le dirigeant de mission de paroisse fait partie de ce conseil. J'aimerais m'adresser particulièrement à vous, dirigeant de mission de paroisse. Vous avez été appelé par votre évêque à diriger l'œuvre missionnaire dans votre paroisse. Et certains d'entre vous ont tellement de succès qu'on a aussi appelé un assistant pour vous aider. Avec les autres membres du conseil de paroisse, vous identifiez les membres moins pratiquants, les familles partiellement membres et les voisins intéressés. Vous avez régulièrement des réunions avec les missionnaires à plein temps affectés à votre paroisse. Vous conseillez et aidez les missionnaires. S'il vous plaît, remplissez leur agenda quotidien d'occasions d'enseigner ciblées et de qualité. C'est votre responsabilité. Votre rôle est tellement extrêmement essentiel à la réussite de cette œuvre. Si vous surfez sur la vague avec foi et enthousiasme, d'autres le feront aussi. En tant que dirigeant de mission de paroisse, vous êtes le lien entre les membres et les missionnaires dans cette œuvre sacrée destinée à sauver les enfants de Dieu. Nos amis et nos voisins qui ne sont pas notre Église et qui nous posent des questions peuvent aussi surfer sur la vague. Nous les invitons à garder tout ce qui est bon et vrai dans leur vie. Et nous les invitons à en recevoir davantage. Particulièrement la glorieuse vérité que grâce au plan éternel de Dieu, la famille peut être ensemble à tout jamais. Cette vague de vérité et de justice est extraordinaire. Elle n'est pas créée par l'homme. Elle vient du Seigneur qui a dit « Je hâterai mon œuvre en son temps ». Cette vague est rendue possible par une déclaration divine faite il y a 193 ans. Elle tient seulement en 9 mots. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoute-le. Cette déclaration prononcée par le Dieu Tout-Puissant fit connaître le Seigneur Jésus-Christ au jeune Joseph Smith. Ces 9 mots entraînèrent le rétablissement de son évangile. Pourquoi? Parce que notre Dieu vivant est un Dieu aimant. Il veut que ses enfants les connaissent, lui et Jésus-Christ qu'il a envoyé. Et il veut que ses enfants obtiennent l'immortalité et la vie éternelle. C'est dans ce but glorieux que nos missionnaires enseignent leur établissement. Ils savent qu'il y a environ 2000 ans, le Seigneur a fondé son Église. Après la crucifixion et la mort de ses apôtres, les hommes ont changé l'Église et sa doctrine. Puis, après des siècles de ténèbres spirituelles, et comme les anciens prophètes l'avaient prédit, notre Père Céleste et Jésus-Christ ont rétabli l'Église, sa doctrine et l'autorité de la prêtrise. Grâce à ce rétablissement, la connaissance et les ordonnances nécessaires au salut et à l'exaltation sont à nouveau accessibles à tous. Finalement, cette exaltation permettra à chacun d'entre nous de demeurer pour toujours en la présence de Dieu et de Jésus-Christ avec sa famille. Je ne peux pas parler du rétablissement en termes modérés. Ce fait historique est absolument sensationnel. Il est incroyable. Il est époustouflant. N'est-ce pas stupéfiant que des messagers des cieux soient venus donner l'autorité et le pouvoir d'accomplir cette œuvre? Notre Père éternel et Jésus-Christ sont apparus plusieurs fois à Joseph Smith le prophète.
Sous leur direction, d'autres messagers célestes sont venus, chaque fois dans un but précis. Par exemple, l'ange Moroni a révélé le livre de Mormon, Jean-Baptiste a rétabli la prêtrise d'Aaron, Pierre, Jacques et Jean ont rétabli la prêtrise de Melchisédek, Moïse a conféré les clés pour le rassemblement d'Israël, Élias a donné les clés de la connaissance d'Abraham, Élie a rétabli les clés de l'autorité de scellement. En outre, le rétablissement a ajouté une connaissance que les saints avaient autrefois. Le Seigneur a donné un nouveau livre d'écriture. À la Sainte Bible, il a ajouté le livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. C'est une compilation de prophéties et du ministère du Seigneur ressuscité auprès du peuple de l'Amérique ancienne. Il explique le grand plan de bonheur de Dieu, le plan du salut. Le livre de Mormon est en parfait accord avec la Bible. Ces deux recueils sacrés proclament la vérité de l'évangile de Jésus-Christ et l'importance de son expiation. Le rétablissement accomplit de nombreuses prophéties bibliques. Par exemple, Ésaïe a prophétisé que la maison du Seigneur serait fondée sur le sommet des montagnes. L'exode des pionniers mormons vers les montagnes de l'Ouest américain est une épopée de sacrifice et de foi marquant l'accomplissement de cette prophétie. Ésaïe prédit aussi que Dieu accomplirait une œuvre merveilleuse et un prodige. Cela se réalise aujourd'hui par l'œuvre sacrée de notre armée grandissante de missionnaires. Les enseignements de l'Ancien Testament au sujet de la dîme sont maintenant rétablis. En conséquence, davantage de payeurs de dîmes sont bénis grâce à leur obéissance. Les allusions à Melchisédek sont clarifiées par les écritures de rétablissement. Les prophéties au sujet du bois de Joseph, le livre de Mormon, et du bois de Judas, la Bible, qui seraient réunies entre les mains de Dieu, sont maintenant réalisés. Le rétablissement clarifie aussi des écritures du Nouveau Testament. Sa mention du baptême pour les morts est maintenant mieux comprise. Les ordonnances pour nos ancêtres décédés sont à présent accomplies par procuration dans 141 temples à travers le monde. Il n'existe pas d'autre moyen d'offrir le salut à nos ancêtres qui sont morts sans connaître l'Évangile. La vision de Jean d'un autre ange volant par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, prédisait la mission de l'ange Moroni et du livre de Mormon. Le livre de Mormon est la pièce maîtresse du rétablissement. Il a été écrit, préservé et transmis sous la direction du Seigneur. Il a été traduit par le don et le pouvoir de Dieu. Le livre des Doctrines et Alliances contient de nombreuses révélations supplémentaires données à Joseph Smith le prophète. Par son intermédiaire, nous avons reçu plus de pages d'écriture que par tout autre prophète. Dans ce qui a dû être un moment de mélancolie, il a dit au saint à nouveau, en Illinois, « Je ne vous ai jamais dit que j'étais parfait, mais il n'y a pas d'erreur dans les révélations que j'ai enseignées. » Ensemble, les membres et les missionnaires invitent tout le monde à connaître Dieu, Jésus-Christ et son Évangile. Quiconque s'interroge devrait rechercher et prier avec ferveur pour avoir l'assurance que ces choses sont vraies. La vérité se manifestera par le pouvoir du Saint-Esprit. Je remercie Dieu et son Fils Jésus-Christ pour leur établissement et son pouvoir de propager une magnifique vague de vérité et de justice sur toute la terre. Puissions-nous surfer sur cette vague et obéir au commandement du Seigneur d'apporter l'Évangile à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. C'est là ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Our holy and eternal Father in heaven.
Notre Père éternel qui est saint dans les cieux, nous te remercions pour ton amour, pour ta miséricorde, spécialement pour ton Fils Jésus-Christ. Nous te remercions d'avoir pu être guidé par un prophète vivant et les apôtres. Nous te remercions des conseils qu'ils nous ont donnés aujourd'hui. Aide-nous à ouvrir notre esprit et notre cœur à ce qui a été enseigné, à pouvoir le suivre pour nous repentir, changer, devenir comme tu souhaites que nous devenions. Nous te prions maintenant que nous puissions nous réunir à nouveau au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 183rd annual General.
Vous venez d'assister à une session de la 183e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par un chœur mixte d'étudiants de l'Université Brigham Young. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.